été invité à vous parler du Père Marie-Joseph et de Vatican II. Donc, nous allons célébrer l'année prochaine le cinquantenaire de l'ouverture de Vatican II, 11 octobre 62. 50 ans, bon, on n'a pas beaucoup de JF parmi nous, puisqu'ils sont avec le Père Claude, mais je dirais pour la génération des JF, le Concile est aussi éloigné d'eux, vous pouvez faire les calculs, que la génération, que les tranchées de Verdun pour la génération de Jean-Paul, ou de moi, ou de quelques autres, enfin de beaucoup d'autres parmi nous. Et aussi éloigné d'ailleurs que de la génération du Père Marie-Joseph, que Napoléon III l'était de la sienne. Que Napoléon III l'était de la sienne. En plus, psychologiquement, avec la fameuse accélération de l'histoire, Vatican II est sans doute aussi éloigné des jeunes d'aujourd'hui que Jeanne d'Arc et le Père Marie-Joseph que Vercingétorix. J'exagère un peu. J'exagère un peu, mais pas trop. Un de mes enfants, un jour, a demandé à son grand-père s'il avait connu Vercingétorix et Jeanne d'Arc. Donc, pour dire le moins, un événement assez lointain, dans un monde où ce qui est arrivé hier est déjà oublié, ce qui arrive aujourd'hui est en train d'être oublié, et seul compte ce qui arrivera demain. Hein. Mais le temps de Dieu, et celui de l'Église y participe, n'est pas celui des médias, et c'est dans ce temps spécifique que je vous invite à vous rendre en compagnie du Père Marie-Joseph et à revisiter ce qu'il a à nous dire sur le Concile Vatican II. Essayons de nous en faire les contemporains. Cela dit, nous serons d'ailleurs plus près de la vérité qu'en reléguant Vatican II dans un passé nébuleux. Il y a presque une règle, comme toujours des exceptions, pour les conciles. Leur réception, c'est-à-dire la façon dont ils ont été reçus, demande généralement au moins une génération pour vraiment démarrer. C'est vrai de beaucoup de conciles, 30 ou les grands conciles du 4e, etc. Autrement dit, pour Vatican II, certainement, il y a déjà eu beaucoup de moissons, de récoltes, mais elle est largement encore devant nous. Et raison de plus pour le connaître. On va pas poser d'interrogation, mais est-ce que nous l'avons tous le texte dans nos familles, dans nos bibliothèques? Et est-ce que nous prévoyons pour fêter ce jubilé de reprendre ces textes au moins les plus importants? Donc, parler de la façon dont le Père Marie-Joseph a vécu Vatican II et, soyons modestes, essayez d'en vivre au moins quelques petits flashs. Je réutilise le mot de flash, je suis désolé, mais il est écrit sous mon texte. Je ne savais pas que Père Claude a utilisé ce matin. En plus, quand on vient à Beach, je ne suis certainement pas le seul, on sait ce que c'est qu'un flash sur la 4 voies ou ailleurs. Donc, non. J'utilise donc ce mot flash parce que ça sera que quelques... Oui, effectivement, que quelques flashs. Dans le livre, il y a de la page 46 à la page 62, mais encore une fois, c'est qu'une petite partie de l'enseignement. Premier flash, l'annonce surprise de Vatican II par Jean XXIII en 1959, travaux préliminaires et ouverture, donc le 11 octobre 62, qui suscite des réactions variées dans le monde catholique comme en dehors. L'accent est généralement mis sur l'ouverture, la nouveauté, le renouvellement, l'adaptation, voire le souffle de liberté qui va venir en rafale sur l'Église catholique. Le Père Marie-Joseph n'est certes pas insensible à ces dimensions, mais il pointe une autre dimension qui, en général, à l'époque, n'a pas été très mise en avant, à savoir, je le cite, « plus que jamais », donc il parle de la préparation du Concile, « plus que jamais, il importe de réaliser l'unanimité et l'unité ». Il insiste sur cette dimension. Pour que nulle force apostolique ne soit perdue, pour que chacun puisse avoir son plein épanouissement, permettre de coordonner davantage les activités, celles, là il parle plus de celles des évêques, mais après il dit que ça comprend tous les prêtres, les fidèles. Ce faisant, le Père Marie-Joseph met le doigt sur la dimension première de ce que va être ce concile en tant que concile. Et que nous avons un peu de mal à saisir quand pour nous il est devenu un gros livre rouge. Je veux dire, comme un des éléments de son nom l'indique, Un concile, c'est d'abord des évêques qui se rencontrent, qui se mettent ensemble pour converser, conférer, se consulter, faire des conciliabules éventuellement, comme vous voulez, afin de s'unir dans le même but qui est de servir l'Église et sa mission d'évangélisation. L'autre accent mis en avant dès le premier jour du concile, et là aussi un peu à contre-courant d'une opinion qui allait devenir de plus en plus dominante, et pour utiliser les termes de Benoît XVI, une opinion dominante qui privilégiait la dimension de rupture du concile, pour autant qu'elle existe, et qui le restera encore bien longtemps, voire même pour certains encore aujourd'hui, jusqu'à ce que Jean-Paul II et Benoît XVI remettent un peu les pendules à l'heure, c'est la dimension de continuité. Vous avez entendu, donc continuité, il y a le mot unité, hein, ou quasiment, que le Père Marie-Joseph met en valeur. 11 octobre, je le cite, 11 octobre, 8h30 du matin, ouverture du 21e concile œcuménique, le Vatican II. Je suis à l'écoute et au qui-vive à la télévision chez un voisin, Monsieur Vogel, peut-être qu'il y en a qui l'ont connu. Il s'agit bien d'une vision telle que Rome et le monde ne l'a jamais vue et vécue. À Saint-Pierre, plus de 2500 évêques de partout, de toutes races, langues et couleurs, délégations officielles de plus de 80 pays, invités d'honneur, observateurs délégués de plusieurs confessions chrétiennes, protestants et orthodoxes, au-delà de 30. Autant que l'immense cortège, le Veni Creator et la messe en l'honneur du Saint-Esprit ont quelque chose d'exaltant. En autant moderne, capable du meilleur et du pire, l'Esprit devra et va agir. Il a à sa disposition les instruments qu'il lui faut. Quelle confiance, hein, qu'il lui faut pour réaliser son œuvre. Évidemment, cette œuvre se fera dans la patience et un rude effort. Il n'en allait pas autrement au temps des autres conciles. Pierre, à nouveau, en la personne de Jean XXIII, professe publiquement en présence de l'Église, à la face de l'univers, sa foi au Christ, témoin de la foi pleine et lumineuse de l'Église. C'est pour proclamer la vérité, avec un grand V, pour en trouver une expression adaptée à notre temps, que le concile s'est assemblé. Instant émouvant que celui où le pape lui-même, quoique maître infaillible de la foi, fit aux yeux de tout le concile rassemblé profession de foi catholique, non pour être jugé sur sa foi, mais pour attester à la face de l'Église que la foi dont il est le maître, en même temps que le gardien, est bien celle qui nous a été léguée par les apôtres et par les conciles antérieurs. À ces conciles, nous nous savons reliés, et le lien est justement ce chant du credo formulé à Nicée et à Constantinople. Il ne s'agit nullement de s'adapter au monde, en dépit de l'Esprit du Christ, etc. Et le Père Marc-Joseph termine, le texte est beaucoup plus long, « Vive le Christ, vive l'Église, vive le concile ». Quant à la troisième dimension, enfin une troisième au moins, qui frappe le Père Marc-Joseph à l'ouverture de Vatican II, c'est sa profonde résonance franciscaine. Et là, bien sûr, on s'y attendait un peu, venant de lui, mais ce n'est pas de la couverture tirée à soi ou à sa chapelle. Il ne fait que suivre Jean XXIII, qui une semaine, jour pour jour, avant l'ouverture du concile, ça a été rappelé hier soir, si mes souvenirs sont bons, et pas très lointain, s'est rendu à Assise, hein, c'était bien hier soir, on en a reparlé, et à Lorette aussi d'ailleurs, et le Père Marie-Joseph, vraiment dans son enseignement de cette année 62, fait sentir ce qu'est d'exceptionnel ces quelques 160 kilomètres parcourus par le pape entre Rome et l'Ombrie, et là aussi je lui laisse la parole. Aujourd'hui, le 4 octobre, le pape va quitter le Vatican pour se rendre à Lorette et de là à Assise. Un événement sensationnel. Depuis un siècle, il n'y eut plus un tel déplacement. C'est la première fois depuis que le pape était auto-bloqué au Vatican, si je peux dire, que le pape est sorti du Vatican, et c'était pour François. Hein. C'est pas le père qui l'invente, hein. C'était comme ça, c'est l'histoire. Hein. Il ne veut pas prendre l'air. Ça c'est vraiment du père, Joël. Il ne veut pas prendre l'air. C'est que le concile est une chose des plus graves pour l'Église et le monde. Il veut tout faire, tout ce qui est en son pouvoir pour attirer les grâces d'en haut. C'est pour cela qu'il veut aussi prier celui qui dans l'Église eut et a toujours eu un si grand rôle, le petit pauvre François, suscité par Dieu pour soutenir l'Église du Christ par l'esprit de pauvreté et la fraternité. Quel réconfort inattendu et inouï pour nous. Second flash, il va y en avoir deux ou trois aussi, pendant le Concile, à travers les chroniques de l'époque, à travers les souvenirs des anciens, quelques confidences du Père lui-même, nous découvrons combien intensément le Père Marie-Joseph a vécu au rythme, et même bien souvent, je dirais, à l'heure du Concile, quotidiennement. J'ai presque envie, on ne sera pas dans la version écrite, mais presque envie de dire, heureusement que Google News et tout ça n'existaient pas, sinon on aurait eu du mal à voir le Père Marie-Joseph. Non, il serait resté le Père Marie-Joseph que nous avons connu. Il aurait ouvert des dossiers, et au lieu de mettre des lettres à la fin de chaque information qui envahissent nos ordinateurs, il l'aurait classé, comparé, ordonné, et puis ressorti en rencontrant la fraternité. C'est de fait ce qu'il a fait avec les instruments de l'époque, c'est-à-dire non pas appuyer des lettres, mais le ciseau, en prenant la croix, l'Observatore Romano, c'était aussi évoqué hier, les discours du pape de Tecchi et d'autres journaux, et donc ciseaux, chemises, la façon dont on travaillait à l'époque. Et il serait intéressant en ce moment d'étudier de plus près, ça sera fait bien sûr, cette façon et de voir les choix du Père. Le Père Marie-Joseph pratique à propos du Concile une méthode qu'il a pratiquée, je pense, à peu près toute sa vie, celle de la longue citation, voire du discours entier qu'il fait lire, parfois écouter, selon les cas, quand il a des versions enregistrées, il fait écouter, partager, étudier, partager, ruminer aux groupes, divers groupes de la fraternité. Exemple d'une chronique de 1964, les jeunes, ce sont donc les jeunes de l'époque, les jeunes, il y en a peut-être parmi vous, les jeunes se sont rencontrés dès le matin, après la prière, exercice de danse. Non, je ne sais pas, Marie-Thérèse, tu étais là, cet exercice. Là. Oui, de danse. C'est le père qui écrit « oui, de danse » avec un point d'exclamation. Pour la rencontre de l'après-midi. Entre-temps, une petite dizaine d'hommes et de jeunes gens ont écouté sur bande, alors quelle différence entre les jeunes et les jeunes gens, mais bon, laissons ça aux historiens, ont écouté sur bande sonorisée l'allocution de Mgr Graber, évêque de Ratisbonne, sur le tiers-ordre et le concile, allocution vraiment, vraiment substantielle sur le sujet qui nous regarde de près, après échange d'idées. Donc, écouter ou lire, et puis après en discuter. C'est une méthode qui est quasiment l'inverse de celle du journaliste qui résume un discours ou un texte et saupoudre son résumé de quelques citations pour bien montrer qu'il l'a quand même lu avant et que ça a quelque chose à voir avec le texte dont il nous donne quelque chose de tout à fait prémâché. Le Père Marie-Joseph laisse la parole longuement au pape, aux évêques, à tel ou tel observateur, à tel point que quand plus tard ces conférences seront systématiquement enregistrées, il est parfois difficile de distinguer la citation de ce qui est de lui. Je suis persuadé qu'on a essayé dans le livre de le faire, mais comme c'est l'enregistrement oral, bien sûr, je suis persuadé qu'il y a quelques textes qui nous ont échappé, parce que c'est souvent des citations très très longues, des textes entiers. Cette méthode a l'inconvénient, bien sûr, d'un peu moins centrer des fois sur l'essentiel, parce que souvent nous ne connaissons plus le contexte ou les enjeux, mais elle a quand même un avantage très précieux, à savoir de nous décentrer de nous-mêmes et de l'orateur, et de nous obliger, qu'on le veuille ou non, à nous mettre un peu dans une démarche, une dynamique d'événements qui n'est plus la nôtre, qui n'est pas la nôtre. Et c'est ici le concile, et c'est vraiment important si on veut justement retrouver la fraîcheur de la source. Depuis 50 ans, il y a eu tellement de gloses, hein. Vous connaissez l'histoire de la soupe de Nasrallah ? Allez, on se donne une minute, je ne sais pas dépasser mon temps, mais elle est très simple. Hein ? Nasrallah, c'est des vieilles histoires arabes, ça. Un jour, il invite quelqu'un à venir manger une soupe. Alors, on partage tout ça. Puis le lendemain, à ce moment-là, il va chez lui, puis il dit, tiens, t'aurais pas un petit peu à manger? Alors l'autre dit, ah, hier, tu m'as offert la soupe, bon. Donc, ils mangent la soupe ensemble. Sur le lendemain, à ce moment-là, il va à nouveau, puis, ah, l'heure de la soupe, comme ça. Puis au bout de 6 mois, le voisin, il arrive, à ce moment-là, il arrive, et le voisin, qu'est-ce qu'il va? Un bol d'eau. Alors il dit, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est la soupe de la soupe de la soupe de la soupe de la soupe. C'est, qu'on lit des choses sur le concile, c'est vraiment, des fois, cette soupe de soupe de soupe de soupe de soupe, et chaque fois, un petit peu assaisonné, différent, par rapport au départ. Je veux dire, relire avec le père Marie-Joseph des bons morceaux d'intervention conciliaire ou paraconciliaire, paraconciliaire, je veux dire, au moment du concile, hein, pas tout ce qui est paraconcile qu'il y a pu avoir, c'est retourner, je dirais, au vrai expresso, après des années de lyophilisé. Ce que nous sentons à travers les écrits du père Marie-Joseph durant les 3 ans du concile, octobre 62, décembre 65, c'est vraiment qu'il s'est passionné pour l'événement, qu'il l'a suivi, je le disais déjà, jour après jour, et toujours avec la même passion qui était bien plus que de la curiosité, qui était, je m'excuse la comparaison, mais qui était ce qu'on demande aux laïcs à la messe, c'est-à-dire une participation active. Tout l'intérêt, ces discours du pape, ceux des pères, les documents conciliaires au premier chef, bien sûr, mais aussi tout ce qui se passe à Rome, et pas seulement, l'intérêt aussi, la réception, comment le concile est reçu dans divers milieux, à travers la presse, bien sûr, parce que c'est surtout ça qui permet le contact, mais à savoir aussi à travers ce que les évêques disent dans leur diocèse, quand ils sont entre deux sessions, surtout les évêques français, mais M. Graber, c'est un évêque allemand, à savoir ce qui se dit, ce qui se vit dans les paroisses, dans les mouvements, et bien sûr, en premier lieu, dans sa propre famille et dans sa propre fraternité. Pour lui, le concile est un événement global, et il s'attache à en vivre toutes ses dimensions, romaines et autres, et il invite les membres de la fraternité à faire de même. C'est ce qu'il appelle se hausser à la mesure de l'heure du concile. Se hausser à la mesure de l'heure du concile. Il précise, il propose un programme de participation qui nous dit d'ailleurs ce que lui pratique. Je le cite. Premièrement, que savez-vous du concile? Vos idées à vous. Un peu de ce que l'on dit autour de vous. Car les idées pour le moins étranges ne manquent pas, on est déjà à l'époque du concile. Deuxièmement, comment pouvez-vous participer au concile? En acceptant avec foi la parole de Dieu qui nous vient par l'Église, qui vous écoute, m'écoute, en faisant un effort, un sincère effort de conversion sur soi, chacun de son côté, pour tendre à une nouvelle ferveur d'amour de Dieu et du prochain et de toute créature, une telle ferveur d'amour, printemps de l'Église, pour le salut du monde, n'est possible que dans le climat de l'esprit de pauvreté, d'humilité, de pénitence. Il revient toujours à cet esprit, celui de François, dans lequel il invite toujours à vivre et recevoir le concile. Autre exemple, qui est un compte-rendu, après un mot d'introduction sur le concile, on fit un échange de vues. Premièrement, comment le tiers-ordre, vocabulaire de l'époque bien sûr, répond-il aux grandes préoccupations du concile? L'objectif majeur, c'est le père Marie-Joseph qui parle bien sûr, l'objectif majeur du concile, le retour d'évangile dans la chrétienté, or c'est là la raison d'être même de l'ordre de la pénitence, de la conversion du cœur. Le concile veut aller aux pauvres, voir discours du pape, message des pères du concile. L'esprit de saint François marque une prédilection pour le pauvre. Et j'ai détaillé, mais je passe au deuxième point. Si le concile veut aboutir, il faut qu'il puisse prendre appui sur des forces vives dans la chrétienté. Il y a donc des mouvements, des efforts hautement valables, tels que celui de la liturgie, du mouvement biblique marial. Il y a surtout l'action catholique, et là, c'est pas le père qui parle, mais il cite des choses qu'il a entendues. Ne pensez-vous pas que l'action catholique rend le tiers-ordre assez insignifiant dans l'Église? Bon, ceux qui connaissent l'époque et qui connaissent aujourd'hui comprendront le sel de cela. Notre part, toujours père Marie-Joseph, notre part est participation au concile. Brève entrée en matière. Le concile est un grand événement dans l'Église pour le bien du monde moderne. Nous nous y intéressons, nous prions, nous voulons offrir des sacrifices pour obtenir sa réussite. Nous devons avoir une attitude d'accueil, humble et confiante pour ce qu'il nous donnera. Il y a plus. Dès à présent, il faut coopérer. Donc, encore une fois, la participation active. Coopérer à ses efforts. À travers diverses questions, le grand objectif du concile, c'est l'homme nouveau selon l'image de Jésus-Christ. Et là, il précise, mais pas le temps de donner ce qui met à l'intérieur de chaque paragraphe, enfin, de chaque dimension. Notre part au concile par l'effort sur nous-mêmes, notre part au concile dans notre attitude envers les autres, notre part au concile dans notre conception du monde moderne. Remarque finale, toujours le père qui le dit, qui le souligne, même remarque finale, à la base de tous nos efforts en notre vie vis-à-vis des autres, à l'intérieur du monde, il y a la charité, c'est-à-dire la vertu théologale infuse au baptême par l'Esprit Saint, affermie par lui, qui s'épanouit dans les deux amours jumeaux, l'amour de Dieu et celui du prochain. Troisième série de flash, le grand objectif du Concile. Cette attention permanente du Père Marie-Joseph à tout ce qui se passe au Concile, autour du Concile, au sujet du Concile, comportait effectivement peut-être un risque, perdre la hauteur de vue, s'empêtrer en quelque sorte dans le Concile pour le Concile. Et à travers au moins les médias chrétiens, il y avait de quoi, encore une fois, y passer les jours et la nuit. La plupart des journalistes, et c'est très impressionnant qu'on relie Henri Fesquet et autres, tous et même quelques théologiens, qu'on en relie les journaux tenus à l'époque du Concile, dont beaucoup ont été publiés, la plupart des journalistes qui ont suivi le Concile sont tombés dans ce travers. Et pour eux, ce qui se passait au Concile, particulièrement quand il y avait des tensions et des oppositions, sinon ça n'avait aucun intérêt, bien sûr, point de vue journalistique, a vite pris le dessus sur les finalités, le sens de l'événement. Voir les proportions, par exemple, prises par ce qui a été appelé le coup d'État de quelques cardinaux européens vis-à-vis de la Curie au début de la première session, ou les articles à répétition sur les groupes qui se constituent, ou les groupes de pression extérieure qui veulent faire avancer leurs points de vue respectifs, voir les informations sur la soutane du cardinal Intel, ça se trouve dans cette littérature, ou sur le tabac, là aussi, ça se trouve, de l'autre cardinal. Rien de cela... chez le père Marie-Joseph, du début à la fin, il garde le cap sur ce qui est le sens, la raison d'être, l'unique finalité du Concile, je le cite, « Jésus-Christ, roi et centre de tous les cœurs ». Toujours père Marie-Joseph, les schémas d'études sont nombreux, certes, pas de facilité, cependant, le grand objectif, pour ça que j'appelle ça cette partie grand objectif, le grand objectif du Concile, le Saint-Père l'a répété à maintes reprises, est le renouvellement spirituel des fidèles, le développement de la foi catholique. Concile missionnaire. Le but principal n'est pas tel ou tel objectif limité, mais le rajeunissement général de la vie chrétienne, sa pénétration plus efficace en ce monde moderne. Il est bon d'adapter les structures aux temps actuels, cependant, on ne renouvelle pas l'Église par des transformations de méthode, ni non plus, comme les hérétiques du XIIIe ou du XXe siècle, il y en a eu aussi au XXe, par des critiques, des condamnations, des séparations. La seule manière de renouveler l'Église, la seule réforme qui puisse atteindre son but et réussir, c'est celle de Saint François. Consiste à restaurer l'Église de l'intérieur en y faisant rejaillir l'eau vive de l'Évangile. Toujours Père Marie-Joseph, le nouveau printemps de l'Église que veut inaugurer le Concile prend son origine dans la foi pure, intégrale, vive au Christ. Entendez le discours, programme du Saint-Père. Le grand problème, là il cite, c'était encore Jean 23, il cite Jean 23, le grand problème posé devant le monde après près de 1000 ans reste le même. Le Christ est toujours resplendissant au centre de l'histoire et de la vie. Et il détaille d'ailleurs un texte beaucoup plus long de Jean 23. Mais j'en viens tout de suite au quatrième flash, avec un S aussi. Vivre le Concile en fils et fille de Saint-François. Le sens de l'unité dans l'Église, de la continuité et de l'unicité d'objectif en Jésus-Christ du Concile n'empêche pas le Père Marie-Joseph de le vivre, là aussi, du premier au dernier jour, dans sa bure franciscaine capucine. Je veux dire, en fils de Saint François d'Assise, et même avec Saint François d'Assise. Je le cite... François a lui aussi vécu un concile de Latran 1215. On peut même dire que le mouvement évangélique suscité par lui, doublé de l'œuvre de Saint Dominique, c'est gentil hein, pour les dominicains, ils n'oublient pas, a été le grand soutien des objectifs du Latran. Au quatrième concile du Latran, le pape Innocent n'était pas arrivé à convaincre la majorité des évêques de l'urgence de la réforme. Le clergé ni le peuple n'étaient préparés à réaliser la réforme. La mort du pape l'année suivante l'empêcha de veiller à l'application des décisions conciliaires. C'eût été un échec presque complet s'il ne s'était trouvé un saint François et un saint Dominique pour le faire passer dans le peuple et le clergé en se lançant avec leurs frères sous l'impulsion du concile dans le service de la réforme évangélique. Et là, j'ai entre parenthèses père Liégé, qui était un père dominicain, mais je ne sais pas exactement quand se termine le père Marie-Joseph et quand commence le père Liégé dans la référence. L'heure de Vatican II, alors ça c'est sûr du père Marie-Joseph, l'heure de Vatican II sollicite les tertiaires. Il est notre grande affaire de retrouver le Seigneur Jésus et son évangile est finalement la seule et vraie manière de vivre le concile, notre conversion à la lumière de celle de saint François. N'est-ce pas là répondre ainsi aux préoccupations du concile? Voilà notre plus merveilleuse part pour le concile. La raison d'être du tiers ordre, ordre de la pénitence, c'est précisément de promouvoir à longueur d'année la conversion évangélique. On rappelle au passage que les deux mots sont même plus que synonymes, pénitence et conversion, qui sont la même réalité sous deux noms différents. Cinquième flash, Vatican II dans la vie et l'enseignement du père Marie-Joseph après le concile. En un sens, le concile a été une étape. La terre a continué de tourner comme avant le concile. Et si pour certains qui occupaient le devant de la scène après 65, Vatican II a été seulement une étape, pour le père Marie-Joseph, ça a été une étape, mais ça a été aussi bien plus qu'une étape. Le concile a d'abord été pour lui un temps de semaille. Et le rôle qu'il voit pour génération de chrétiens d'après-concile est bien sûr de façon spécifique, particulière, pour les tertiaires, les OFS ensuite, pour nous donc, est un rôle de jardinier. Faire pousser en eux et par là dans le monde les belles semences de sainteté du concile. Mais là je quitte mon sujet, ça sera un autre, sans doute un jour, le concile dans la vie et la pensée du père Marie-Joseph après Vatican II, il y a 27 ans et demi, donc il y a de quoi faire là aussi, je ne jetterai que deux ou trois coups de sonde qui constitueront en quelque sorte la conclusion de mon intervention et qui montreront, je pense, que d'une part le concile, l'événement central de l'Église du XXe siècle, l'a été aussi pour ce bon serviteur de l'Église, et que d'autre part, il n'a cessé jusqu'à sa mort de s'en faire le héros et l'apôtre, dans son authenticité. Vivre le concile. Pour l'essentiel, qu'est-ce que le père Marie-Joseph a sans cesse continué à vouloir transmettre du concile? Sur ce point, il y aurait beaucoup à dire, bien sûr, mais c'est peut-être un peu inutile de réinventer la roue quand ça tourne déjà. Et je vais donc cette fois-ci donner la parole non au père, mais à un ami cher de notre fraternité qui a traité de façon magistrale en 1998 ce thème, le père Marie-Joseph dans les 30 dernières années, donc 27 et demi précisément, le concile dans sa vie. Donc, je veux bien sûr parler du père Coudreau, hein, pour ceux qui l'ont connu, puis pour les autres aussi, le père Coudreau. Le père Marie-Joseph, maintenant je cite, s'est appliqué à faire vivre l'OFS de l'aggiornamento, c'est-à-dire du renouveau opéré par Concile Vatican II, mis en œuvre par Jean XXIII, Paul VI et Jean-Paul II. Pendant 30 ans, de 1963 à 1993, mais c'est vrai qu'en sens, oui, il a tout à fait raison de dire 30 ans, moi je partais uniquement du dernier jour du concile, il s'est laissé imprégner, et ça a tout à fait raison, du souffle conciliaire pour le faire passer dans chacun et chacune des membres de la fraternité franciscaine qui lui avait été confiée. Si l'on peut parler de l'intuition fondamentale qui caractérise son œuvre, c'est bien de la mise en œuvre du renouveau conciliaire dans l'OFS qu'il faut parler. Hein. Donc père Coudreau va jusqu'à dire que c'est l'intuition fondamentale de l'œuvre du père Marie-Joseph après le concile, déjà pendant et puis après, mise en œuvre du renouveau conciliaire. Et le père Coudreau en relevait cinq facettes, je ne fais que les citer, hein, parce que c'est un texte long. Premièrement, cinq facettes de cette mise en œuvre prônée réalisée par le père Marie-Joseph. Premièrement, la dignité baptismale valorisée, un laïcat reconnu et responsable. La première facette du renouveau conciliaire, épinglé et retenu par le père Marie-Joseph. J'arrive pas à voir l'heure. Quelqu'un peut me la dire? Alors, encore. Donc, je vais essayer d'aller encore un peu plus vite. Transformation radicale de la personne humaine par l'événement et l'avènement de la foi, ça change tout. Ça, c'est la première dimension. L'Église est d'abord non plus pyramidale, mais d'abord une, communion, communauté, peuple de baptisés. Deuxième facette, charisme franciscain reconnu, spécificité spirituelle et institutionnelle. Charisme franciscain, don de l'Esprit-Saint qui est richesse pour le bien du peuple de Dieu, de tout le peuple de Dieu. Père Marie-Joseph, toujours Père Caudreau, insistait sur les deux pôles de cet engagement, le pôle spirituel et le pôle institutionnel, qui distinguait, mais qui ne dissociait pas. Troisième pôle, et en disant d'ailleurs que ce pôle vécu par le troisième ordre devait l'être en communion étroite avec le premier. Troisième pôle, l'insertion ecclésiale explicitée, vive de l'Église et en Église. Disponibilité missionnaire précise, service ecclésial, engagement temporel. Donc ça tous, nous connaissons tous les fleurs et les fruits de cette insistance du Père. Quatrième facette, présence au monde pour l'avènement du royaume. Pour le Père Caudreau, c'était la fine pointe du renouveau conciliaire. Le témoignage des chrétiens rejoignant les hommes de bon vouloir pour la construction d'un monde nouveau, d'amour, de justice et de paix. Le Père Marie-Joseph, c'est toujours Père Caudreau, avec beaucoup d'à-propos et d'audace, de patience, de force, n'a jamais cessé de nous révéler l'urgence et les modalités de ce témoignage, de nous orienter, de nous soutenir pour nous y engager. Enfin, cinquième facette, ouverture catholique authentique sur l'Église et le monde, que ce soit dimension œcuménique, et là-dessus c'est très intéressant, même si le père Claude n'est plus là, mais ce n'est pas moindre ouverture, je cite le père Caudreau, le père Marie-Joseph a voulu ouvrir le charisme franciscain à d'autres charismes, et tout spécialement au charisme carmélitain. Sans mettre dans l'ombre son père François, saint François, il se référait souvent à Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, etc. Je compléterai ce que dit le père Caudreau, qui est très beau et très fort, ça vaudrait le coup de ressortir un petit peu, sur deux points. D'abord, aussi le combat pour la défense du concile authentique contre les interventions aventureuses, biaisées, voire des fois perverses du concile, utilisées comme arme de guerre, on peut le lire encore aujourd'hui, pour promouvoir une soi-disante église conciliaire qui serait à l'église préconciliaire ce que le jour est à la nuit. Il y a de l'ombre des deux côtés, hein, celle d'après comme dans celle d'avant, et des fois de l'ombre épaisse. Le Père, comme dans chacune de nos vies, le Père Marie-Joseph s'est battu pendant toutes ces années que le Seigneur lui a données après Vatican II pour le concile authentique. Je le cite encore un petit peu. Après la guerre, les remous de la pré-guerre, venu le concile. Pendant et après le concile, Dieu sait s'il y a eu des déviances sous prétexte de fidélité. Je ne veux pas m'y arrêter maintenant. C'est généralement quand le Père allait s'arrêter à quelque chose, s'en souvient. Que n'a-t-on pas mis sur le compte du concile? Si on l'avait vraiment appliqué, le concile est une formidable grâce dans tous les domaines, liturgie, parole de Dieu. On pouvait croire qu'après le concile, je coupe, parce que tout serait merveilleux, et de fait, c'est merveilleux, comme l'était la vie cachée de Jésus à Nazareth. Vous voyez ce que je veux dire, cette force de la vie cachée, etc. Mais le texte est beaucoup plus long. Et puis, enfin, de façon très concrète aussi, c'est dans cet esprit imprégné du Concile que le Père Marie-Joseph a pris sa part, et pas la moindre, dans la vaste réflexion sur l'avenir du tiers-ordre qui aboutira à la nouvelle règle de vie, aux nouvelles constitutions dans la famille franciscaine en France. Vous trouverez là aussi dans « Être la joie de Dieu » toute une partie de ces textes, une partie seulement, qui permettent de suivre à la trace les inflexions conciliaires que propose le Père Marie-Joseph, qui restent à mon avis d'actualité, y compris pour notre fraternité et celles qui sont issues de son charisme. Une dimension est manifeste, et je termine par elle, se décentrer de soi vers la communauté croyante, la fraternité, et il faut commencer par ça et aller jusqu'à l'Église. Je n'ai qu'une âme et je dois la sauver, oui. Chacun d'entre nous, mais c'est en sauvant le monde, en participant avec des frères et sœurs au salut du monde, que je le ferai. Merci.